Elle danse. Depuis toujours, elle danse. Quand elle a froid, elle danse. Quand elle a mal, elle danse. Elle danse pour ne pas penser. Penser la douleur d'une plaie qui s'ouvre à force de la cureter. Elle pense et elle se tire sur la peau des lèvres une par une. Elle se les enlève. Poussière de chair, elle tombe par terre. Elle pense et elle ferme la bouche. Elle cherche un mot clac qui ferait mouche. Elle tourne et elle galère. Elle pense qu'elle ferait mieux de se taire. Ne plus rien dire, pas nécessaire. Laisser son corps prendre l'espace. Le corps qui vit, le corps qui tangue et le corps qui parle à sa place. Ce corps qu'elle finit par aimer. Malgré tout, surtout malgré elle, quand elle danse, elle se trouve belle et forte et fière et en colère. Là, son corps libre, émancipé, les traces des chaînes, les oublier. Elle tourne et elle déchaîne en elle le goût de la liberté. Femme tu es, femme tu danses, nous pardonnez pas nos offenses. On va se charger de se pardonner. Alors elle danse, elle danse, elle danse. Elle pense à ce film de Godard, Une femme est une femme. Quelle histoire! La beauté d'Anna Karina et la volonté d'Angela. Elle veut un enfant, elle l'aura. Et si ça plaît pas, c'est comme ça. Je suis pas une femme, je suis une femme.
France Inter. Julia Foyce, unique en son genre.
Si les tâches de l'élevage des enfants étaient mieux réparties entre l'homme et la femme, bon, s'il y avait aussi une aide de l'État beaucoup plus considérable qui permette qu'il y ait des crèches, des nurseries, des maternelles, etc., etc., et puis qu'on enlève à la femme la mauvaise conscience qui lui vient d'une manière atavique à travers sa propre mère, sa propre grand-mère, bon, après ça, la maternité, pourquoi pas? Je pense que c'est une chose assez belle que de voir en effet naître, grandir, se développer un être humain. Mais tel que c'est aujourd'hui, c'est vraiment pour la femme un piège dans lequel elle ne peut que laisser sa liberté et son bonheur.
Et c'est marrant, elle n'a pas l'air d'y croire vraiment, hein, à la possibilité d'un élevage d'enfants heureux. Simone de Beauvoir pour vous accueillir. Camille Froide-Vaumétry, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, professeur de sciences politiques à l'Université de Reims, vous êtes l'autrice de plusieurs essais autour du corps, du féminisme, du féminin, dont celui-ci, le dernier, l'un des grands essais féministes de la rentrée, Un corps à soi. Si on a passé cet extrait de Simone de Beauvoir, évidemment c'est pas pour rien, elle apparaît en filigrane d'un chapitre à l'autre de votre livre, pour mieux vous en défaire de la reine-mère du féminisme.
Ah, non, j'ai pas envie de m'en défaire, j'ai envie de la retrouver au contraire,
ouais.
Parce que je trouve qu'elle a pas toujours été comprise aussi bien qu'il le faudrait, et notamment elle a été un petit peu enfermée dans l'idée de la détestation corporelle, notamment ouais. Parce qu'elle avait cette conception super distante, voire haineuse vis-à-vis de la maternité, hein. Elle parlait du drame de la grossesse, et on entend bien dans l'extrait que vous avez choisi ouais. Que non, je crois que vraiment elle ne s'y résoudra jamais. Mais il y a aussi dans le deuxième sexe toute une proposition autour de la façon de retrouver son propre corps, puis il y a aussi dans sa vie, dans ses autres écrits, des choses très belles, des choses très incarnées, très charnelles même.
Vous racontez, vous, comment le féminisme a un rapport assez complexe avec le corps et la corporéité, qu'on pourrait résumer comment on a eu du mal à s'en défaire, on a voulu s'en défaire de ce corps pour être de purs esprits détachés de toute sexuation.
Oui, le projet du féminisme, c'est de mettre à terre le socle du système patriarcal, et ce socle, c'est l'objectivation corporelle des femmes, c'est-à-dire ouais. Cette définition immémoriale selon laquelle les femmes doivent être assignées ou cantonnées dans leurs deux fonctions sexuelles et maternelles. Mmh. C'est le nœud, c'est le cœur des combats féministes, notamment depuis les années 70, qui sont un moment vraiment d'intense réappropriation de ces dimensions. Et puis, il y a quelques décennies qui suivent, durant lesquelles, curieusement, ces sujets corporels disparaissent un petit peu. Et puis, il y a aussi une forme de, disons, d'effet collatéral de la pensée féministe sur le corps comme le lieu par excellence de la domination masculine, qui aboutit à ce que, notamment, au début des années 2000, eh bien, le corps des femmes a été définitivement, un petit peu trop définitivement, à mon goût, rangé du côté de la domination patriarcale, comme s'il ne pouvait vraiment rien apporter aux femmes d'autre que de l'aliénation et de la soumission. Ce que j'essaie de faire précisément, c'est d'ouvrir sur le deuxième volet, qui est le volet positif de la libération.
Et alors, comme toujours dans vos travaux, vous partez de vous-même pour proposer une réflexion sur le monde et sur ce qui le peuple. Pourquoi? Parce que l'intime est toujours politique, parce que le soi, c'est toujours un peu le nous.
Oui, et surtout parce que le féminisme est presque par essence une démarche qui part du récit singulier, individuel, pour aller jusqu'à la lutte collective. C'est ce que faisaient les féministes des années 70 dans les cercles de conscientisation, où elles mettaient en partage, dans des réunions en non-mixité, des récits. Et c'est à partir de la prise de conscience qu'elles partageaient une semblable oppression que naissait le désir de s'en débarrasser, le désir d'entrer dans la lutte collective. Donc il y a un fil qui relie d'abord les femmes entre elles, mais aussi qui relie chaque femme en tant qu'individu à la lutte collective et au projet politique du féminisme.
Alors vous écrivez la gamine, puis l'adolescente, puis la mère que vous avez été, que vous êtes. Vous racontez comment, au-delà de votre expérience singulière, le corps féminin est éduqué. Éduqué, dites-vous, pour être entravé, figé, effacé. Mais pourquoi, au fond ?
Eh bien parce que le corps des femmes et les femmes elles-mêmes doivent rester, du fait même de leur enfermement dans ces fonctions sexuelles et maternelles, doivent rester à l'intérieur, à la maison, à s'occuper de leurs enfants, mais aussi de leurs compagnons et puis de toute la famille. Et que le monde, l'espace du dehors, c'est un espace qui leur est interdit, qui leur est fermé. Donc tout est fait dès l'enfance pour leur inculquer cette conception très étriquée, très étroite, très repliée sur elle-même, du corps qui doit rester un corps, alors à disposition, mais dans la sphère privée, c'est-à-dire un corps sexuel disponible pour la prise masculine.
Ce rapport au corps que vous décrivez, Camille Froidevaux, métrique est fait de, je dirais, c'est un peu guerre et paix, hein, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une réconciliation. Si maintenant je vous tends ce miroir, si vous le prenez et que vous vous regardez, diriez-vous que votre rapport à votre image ou à votre corps aujourd'hui s'est apaisé ou libéré ?
Complètement.
C'est vrai ?
Oui, moi c'est ce que j'ai essayé aussi de dire dans le livre, parce que j'ai commencé à réfléchir sur ces questions du corps, notamment par le sujet du souci esthétique. Qu'est-ce que c'est que ce rapport à sa propre apparence qu'ont les femmes ? Pourquoi tant de soins ? Pourquoi, d'un point de vue féministe, ça a toujours été considéré comme une forme de soumission ou d'état patriarcaux et rien d'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, dans le rapport à sa propre image, quelque chose de crucial dans toute existence ? Et en fait, ce que j'ai raconté dans le livre, c'est que la femme que je suis aujourd'hui, cette femme de 50 ans, quand je me regarde dans le miroir, je m'aime, ça va. Ouais. Mais cette femme-là, c'est l'histoire de 5 décennies, alors un petit peu moins, mais disons depuis l'adolescence, l'histoire d'une grande souffrance, d'une grande détestation de soi. J'ai été une petite fille ronde, j'ai été une adolescente, voilà, rondelette aussi, et puis une jeune femme grosse. J'ai souffert de boulimie pendant des années et des années, et j'ai passé ma vie, en fait, à essayer de m'approcher d'une forme de représentation de moi-même qui coïncide avec celle que j'étais, et qui me permette aussi d'essayer de me débarrasser de ce boulet de la détestation de soi. Et je dis boulet parce que je crois que c'est une forme d'esclavage que partagent bien des filles et bien des femmes, c'est-à-dire que c'est tellement difficile de s'apprécier tel qu'on est dans une société qui nous bombarde au quotidien d'injonctions esthétiques, mais aussi dans un monde où finalement, et c'est ça le drame que Beauvoir déjà décrivait, une société où tout est fait pour nous apprendre dès l'enfance que nous devons souscrire à un certain nombre de normes de façon à entrer dans les rôles qui sont attendus pour nous. Et donc, je crois que c'est très important de rappeler que on a chacune une histoire très singulière vis-à-vis de notre propre corps, et que de ce fait même, je m'interdis, en tout cas moi, de poser la moindre évaluation ou d'émettre le moindre jugement sur ce qu'une femme fait de son apparence. Parce que si, elle, par exemple, elle opte pour des signes extérieurs de féminité assez appuyés, ce qui est un peu mon cas, moi je me maquille tous les jours, je peux pas faire autrement, j'aimerais bien, mais c'est comme ça, voilà. c'est comme ça que je me suis construite. Eh bien, ça dit quelque chose, enfin de moi, en tout cas dans mon histoire, ça a été un outil qui m'a accompagnée, qui m'a aidée à devenir celle que je suis.
Alors, celle que vous êtes, c'est donc effectivement un joli fard à paupières bleu, très bien mis.
Bleu-gris,
c'est vrai. Un joli blond vénitien aussi, des cheveux raides et mi-longs. Une bouche légèrement glossée, un joli pull en maille. Effectivement, on sent que vous prenez soin de vous et que vous le faites bien. Mais qu'est-ce qui, chez vous, pourrait faire mauvais genre ?
Bah écoutez, en fait, c'est un peu mon problème. J'aimerais bien qu'il y ait des choses qui fassent mauvais genre. En tout cas, pendant très longtemps, j'avais plein de choses qui faisaient très mauvais genre. Ouais. Quand j'étais ado et jeune femme, je m'étais rasée la moitié de la tête, percée les oreilles, j'avais des grosses bagues à tous les doigts, je m'habillais comme un garçon, mais en même temps, je me maquillais beaucoup. C'était les années New Wave, donc le teint très blanc, les yeux très noirs, et puis j'avais une grande gueule, j'étais toujours celle qui la ramenait, que ce soit au lycée ou voilà. J'étais un peu en colère aussi, je crois. Ouais. Je le suis sans doute restée, mais de façon peut-être moins épidermique, moins éruptive. Et puis avec le temps, les études, et puis le travail, le fait que je sois devenue professeure, que je sois devenue mère aussi, et puis que j'ai eu aussi ce cheminement vis-à-vis de mon propre corps qui m'a conduite aussi à revêtir justement ces oripeaux de féminité, mais qui me servent aussi et qui m'ont fait du bien en fait dans mon histoire. Tous ces signes extérieurs de mauvais genre ont disparu, à tel point que arrivée au tournant de la cinquantaine, j'ai eu tout d'un coup une grande frousse. Je me suis dit, mais je suis en train de me transformer en dadam. Et ça va pas du tout, parce que cette apparence, c'est pas la mienne. Enfin, ne reflète pas celle que je suis. Mmh. Alors, par exemple, je me suis repercée mes deux anneaux.
Ah oui,
là.
Effectivement.
Voilà, d'un côté. Je me suis fait tatouer pour la première fois dans ma 50e année. Alors, bon, je l'ai fait à un endroit qui ne se voit pas, donc du coup, ça fait pas mauvais genre du tout, parce qu'on ne le devine pas. Mais je suis dans une réflexion, et je crois que, évidemment, la cinquantaine y est pour quelque chose, mais où je me dis, il faut que je trouve une façon d'être justement davantage en accord et de retrouver un petit peu de ce mauvais genre qui m'a quittée.
Alors, vous nous raconterez ce crâne rasé d'adolescente, ce dos tatoué, passé 50, un corps à soi, partie de vous qui parle au nous. Et ça, c'est cadeau. C'est pour vous, Juliette Armanet sur France Inter.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Jour du disco, Juliette Armanet, artiste France Inter, et son album en boucle dans votre playlist, je crois, Camille Froide-Vaumétry. Pourquoi ? Elle vous touche comme artiste ?
Oui, absolument, parce que j'aime beaucoup ce mélange dans ses chansons de poésie, parce que vraiment, elle écrit de très beaux textes, de poésie parfois romantique, souvent, parce qu'elle parle énormément d'amour, et puis de joie, de danse, de disco. Mmh. Et l'album qui vient de sortir, il est super, parce que c'est des chansons comme celle-ci, qui sont des chansons où, je sais pas, on a l'impression l'impression que c'est des chansons d'amour qui donnent envie de danser, c'est quand même assez rare. Et j'aime beaucoup la suivante sur l'album qui s'appelle Qu'importe. Voilà, je le dis parce que on a chacun ses petits coups de cœur.
Gamine, c'était plutôt Albator qui vous est décollé, ado des posters de The Cure au mur. Et puis Scorpion, Still Loving You, ça c'était dans la chambre de Stéphane, votre amoureux du lycée. Sous la table en classe, vous teniez la main. C'était doux, tous les deux, vous rêviez à demain en vous disant que, ouais, mais demain c'est loin.
Unique en son genre.
Vous naissez très exactement le 18 novembre 68 dans le 15e arrondissement de Paris. Le vent de la liberté a soufflé très fort 6 mois plus tôt. Que reste-t-il de mai 68 chez vous, chez vos parents, dans l'ambiance familiale?
Oui, c'est un moment important en fait, parce que quand je suis née en novembre 68, mon père était encore étudiant en architecture aux Beaux-Arts à Paris, et dans l'effervescence de ce moment, alors d'abord il y a contribué avec d'autres, c'était aux Beaux-Arts on dessinait, on peignait les affiches du mouvement, c'était très joyeux, et puis il y avait aussi pas mal d'étudiants qui étaient déjà parents, et une crèche a été créée à cette occasion. Ah oui. Pour les enfants des étudiants des Beaux-Arts, et le fait que ma mère m'attende à ce moment-là et que je sois chez... J'ai été un des bébés qui a ouais. été, disons, à l'origine de cette initiative. Et puis après, dans la vie de notre famille, ça n'a pas été, disons, un marqueur, dans le sens où mes parents n'étaient pas, disons, engagés sur ces questions spécifiquement.
Ouais. Ils étaient assez traditionnels dans la répartition des rôles homme-femme, mère-père?
Oui, complètement, parce que mon père travaillait beaucoup, ma mère travaillait avec lui, et plus exactement pour lui, ouais. Comme beaucoup de femmes de cette génération, mmh. notamment des femmes qui travaillaient aux côtés de leur conjoint, un métier hyper chronophage qui faisait qu'ils n'étaient pas souvent à la maison. Donc il y avait à la fois... Enfin, c'était aussi une vie assez... comment dire, mouvementée. Je me souviens d'être allée petite amener des paniers de sandwichs à l'agence parce que il y avait ce qu'on appelait des charrettes où ils bossaient pendant plusieurs jours et nuits d'affilée pour finir un projet. Mais derrière cette organisation, disons un petit peu voilà, artistique et détendue, il y avait quand même, en termes de rôle genré, ouais. les choses tout à fait bien à leur place comme il faut.
Alors, dans votre essai « Un corps à soi », vous rappelez qu'à l'époque, l'échographie n'existait pas. Aujourd'hui, 90% des parents souhaitent connaître le sexe de l'enfant. Ça change quoi ?
Ça change tout, parce que dès qu'on connaît, on projette sur l'enfant à naître des caractéristiques genrées. On a beau être soi-même conscient de véhiculer ces stéréotypes, c'est très difficile. On sait très bien, par exemple, qu'on manipule pas du tout de la même façon un bébé fille qu'un bébé garçon. Mmh. Ce dernier, on va l'envoyer en l'air beaucoup plus facilement, le faire tourner dans tous les sens et le manipuler. La petite fille, elle sera traitée avec davantage de douceur, de façon plus tendre, plus caressante. Alors, après tout, pourquoi pas, mais le problème, c'est que, ça commence d'engrammer dans le ressenti de chaque individu, toutes ces attentes, notamment corporelles, qui sont projetées sur les enfants. Moi, quand j'ai attendu mes enfants, j'ai souhaité ne pas savoir.
C'est vrai.
Oui, et j'ai tenu bon.
Et vous avez le sentiment que vos parents ont été heureux d'avoir une fille, ou bien que ça n'a pas finalement été une question?
Oh oui, je crois.
Est-ce que vous avez reçu une éducation genrée?
Non, pas tant que ça. J'ai été élevée en fille aînée. Ça veut dire ouais. quelque chose, c'est-à-dire ouais. en tête de fratrie, avec ce que ça implique de responsabilité. Mais j'ai aussi été élevée très tôt avec cette idée, par exemple, que scolairement, tout devait être possible. Et même, enfin voilà, ma mère, elle avait des ambitions pour moi, ouais. et j'ai fait en sorte de lui faire plaisir, donc de faire.
On peut dire que vous y êtes arrivée, oui.
Les voilà, les écoles qu'elle. Bon, en fait, nous, les enfants de 68, puisque je suis née en 68, on nous a élevés en nous indiquant une voie qui était une voie qui s'ouvrait en grand et qui disait, ouais. voilà, les filles, allez-y.
C'est possible.
C'est possible. Ouais. Avec peut-être la contrepartie qui était, c'est possible, mais. Peut-être tout le reste, on n'en parlait pas du coup, c'est-à-dire la vie intime, la vie amoureuse. Et c'est ce qui fait par exemple que moi j'ai eu mes enfants tard, à 34 et 38 ans, parce que dans ma tête, je devais faire tout le reste avant. Passer mes diplômes, obtenir mon doctorat, obtenir un poste à l'université, publier un premier livre. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est un peu l'écartèlement, qu'est-ce que je fais? J'ai une envie d'enfant, mais en même temps des projets professionnels, et ça, c'est là que ça se complique. Ouais.
Alors petite, comme tous les enfants du monde, le mercredi, hop là, devant la télé, et les yeux grands, écarquillés.
Sur la liberté aussi.
essaye d'imaginer l'agrégé de sciences politiques que vous êtes aujourd'hui, scotché devant Albator petite, on n'y arrive pas. Je me demande quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, quel genre de petite fille?
J'étais une immense lectrice. Ce que j'aimais dans Albator, c'était toute la dimension quasi mythologique du récit,
ouais.
Et puis une esthétique aussi assez fascinante, assez dégenrée d'ailleurs,
ouais.
Avec des personnages voilà, dont on ne pouvait pas tout à fait deviner de quel sexe
oui,
ils étaient.
Vrai.
Il y avait quelque chose comme ça qui me plaisait beaucoup. Mais j'étais surtout une immense lectrice et j'ai passé des années à vivre des vies par procuration au gré de mes lectures. Ça m'a jamais quitté, c'est-à-dire que j'aime énormément la littérature, ouais. Je lis encore énormément de romans, c'est, voilà, ce monde-là, le fait que ces mondes-là soient possibles, c'est très important dans ma vie.
Et puis l'enfance s'éloigne, l'adolescence approche, le corps change, c'est l'âge des premiers émois, des premières décharges hormonales, des premières règles aussi. Vous citez dans votre livre Simone de Beauvoir qui écrit « La fille est jetée dans un cycle vital qui déborde le moment de sa propre existence, elle devine une dépendance qu'il avoue à l'homme, à l'enfant, au tombeau ». Ça s'est passé comment pour vous l'adolescence? C'était aussi grave que ça?
Je ne sais pas si j'avais cette conscience aussi aiguë de ma propre finitude, mais en tout cas ce qui est certain c'est que ce fut assez douloureux. Ouais. Mon corps a explosé dans tous les sens, il est devenu rond de partout. Oui, et j'ai commencé à détester ce que je voyais, à me sentir mal dans cette enveloppe que je ne maîtrisais plus.
Vous pensez, comme de Beauvoir, que la sexuation des corps coince les filles alors qu'elle libère les garçons?
Ah oui, enfin alors, je sais pas si la sexuation des corps libère les garçons, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle enferme les filles. Ça, c'est à peu près,
ouais.
C'est une évidence hein, que la sexuation est immédiatement synonyme de sexualisation et que quand les seins poussent aux yeux des autres, aux yeux du monde, aux yeux des garçons, on devient un corps sexuel, c'est-à-dire aussi un corps disponible à un moment où c'est, disons, encore assez difficile à envisager et où il faut assumer très vite et de façon violente ces regards qui se posent sur soi, ces réflexions qu'on entend, ces gestes qu'on subit aussi. Et je pense que le fait de s'enrober, comme je le faisais, c'est-à-dire voilà, avec ces pratiques boulimiques qui me faisaient grossir, il y avait quelque chose de l'ordre de l'enfouissement, de la dissimulation, qui avait à voir avec sans doute le fait que j'avais du mal en fait à assumer cette sexualisation.
Les garçons, eux, vous le dites, sont poussés vers l'extérieur au moment où ils grandissent, mais poussés aussi à surjouer une virilité. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Que c'est pas simple, que les tourments sont certainement aussi intenses, mais qu'il y a quelque chose qui leur est signifié très vite, qui est que, eux, pour le coup, ils sont des individus pour la société. Des individus, donc, qui doivent investir le monde, qui doivent agir dans le monde, et en même temps, mais on leur signifie aussi qu'ils ont ils subissent aussi une forme d'injonction.
C'est ça, il y a une charte quand même.
C'est
hein.
ça. À l'accomplissement, à la constance, à la performance surtout,
ouais.
qui est bien lourde aussi, et qui les empêche, par exemple, aussi de s'épanouir ou de trouver dans la verbalisation de ses sentiments, de ses émotions, les choses qu'on peut y trouver, c'est-à-dire notamment le fait de pouvoir échanger avec ses proches, avec sa famille, des choses qui sont importantes pour soi. Moi, je l'ai vu aussi dans ma propre famille, où les hommes parlent très peu, voire ouais. pas du tout. J'ai eu la chance ensuite de rencontrer un homme qui parlait ouais. beaucoup. Et donc, je sais que c'est possible, mais c'est très rare. Ouais. Et je trouve que c'est très important qu'on apprenne à, désormais, qu'on éduque les garçons d'aujourd'hui à accepter la possibilité simplement d'être dans le ouais. sentiment, dans l'émotion et de pouvoir l'exprimer.
Les garçons commencent à l'époque à vous intéresser. On est en 1980. La France tombe amoureuse de Sophie Marceau, qui, elle, tombe amoureuse de Mathieu. Mais vous, c'est le blond avec sa coupe au bol là, qui vous plaît. Et dans votre tête, vous dansez.
I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be.
Pardon. Coitus interruptus, je suis désolée, je suis obligée d'enchaîner. Vous l'avez vu combien de fois à l'époque ce film?
Je ne sais pas, peut-être une dizaine de fois. Avec une copine, on se planquait sous les sièges du cinéma pour pouvoir enchaîner les séances les unes après les autres. On était complètement raide dingue et on avait trouvé le numéro de téléphone de ce blond dont je ne me souviens plus du tout le nom. Et qui avait répondu au téléphone. Genre un truc qui n'arriverait plus jamais.
Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait annuaire.
Voilà.
Et on tombait sur des téléphones fixes et on appelait les gens. Et on tombait sur eux, quoi.
Et ils répondaient. Sans savoir qui appelait. Donc ils répondaient de façon spontanée.
La Boum est traversée par ce suspense, ou cette angoisse de cette fameuse première fois qu'on couche avec un garçon. Les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. Dites-vous, ce rite de passage, il est vécu comment par les jeunes femmes?
Il y a deux stratégies. Il y a celles qui veulent s'en débarrasser le plus vite possible pour passer à la suite, c'est-à-dire la vie de jeune fille, et qui donc désinvestissent et font en sorte, disons, d'organiser peut-être leur première fois avec un garçon qu'elles aiment bien, mais qu'elles considèrent comme quelqu'un qui va leur permettre simplement de changer de monde. Et puis il y a d'autres jeunes femmes qui préfèrent, elles, attendre le bon, comme on disait autrefois, peut-être le bon moment ou le bon garçon. Mais dans tous les cas, ce qui me frappe, c'est que on reste encore complètement imprégné de cette mythologie, de ce que la première fois, c'est nécessairement la pénétration du vagin par le pénis. Mais parce que quand on y réfléchit, la première fois sexuelle dans une vie de fille, et même de garçon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas la première fois où on découvre le plaisir qu'on peut se donner à soi-même? Est-ce que c'est pas le premier orgasme que l'on ressent et qui généralement n'a pas besoin des garçons pour survenir? Est-ce que c'est pas la première fois qu'on se montre nu à une autre personne? Enfin, voilà, cette espèce de focalisation sur la pénétration fait que on surinvestit à un moment dans la vie des filles et des garçons qui est un moment parmi d'autres finalement, et puis surtout on se prive de pouvoir penser l'entrée dans la sexualité comme quelque chose de doux, de joyeux, d'égalitaire aussi, parce que finalement cette focalisation sur la pénétration, ça inaugure une sexualité placée sous le signe de la satisfaction des soi-disant impétueux besoins masculins et puis d'une forme de sacrifice de son propre plaisir.
Alors vous-même, vous décrivez une angoisse à l'époque, dans vos rapports avec les hommes, angoisse née du décalage entre ce qui est censé être votre sexualité, la sexualité, ce que vous vivez réellement. Au tout début, vous ne ressentez que peu de plaisir ou pas du tout. Mais parce que le plaisir féminin, à l'époque, on n'en parle pas, on s'y intéresse pas?
En tout cas, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais en fait, je le vis, ce plaisir, mais toute seule, comme bien des filles, et comme j'y pense l'immense majorité des filles et des femmes. C'est-à-dire que on entre dans la sexualité par l'exploration de soi. Alors, à l'époque, il n'y avait pas tous les comptes Instagram et tous les livres et toutes les vidéos sur ces sujets qui existent aujourd'hui. Je me réjouis beaucoup pour les jeunes filles d'aujourd'hui qu'elles puissent en disposer. Et donc, on n'avait pas non plus la possibilité de réfléchir la façon dont on vivait sa vie sexuelle avec les garçons. Donc, en fait, on était condamnés un peu à subir ce qu'ils nous faisaient, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est vrai, pendant longtemps. Les choses ont énormément évolué et c'est vraiment réjouissant.
Quand on voit, par exemple, tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'autour du clitoris, les comptes Instagram, les happenings, des choses comme ça, ça y est, ça veut dire que les jeunes femmes de cette génération-là s'emparent de leur clitoris et donc de leur plaisir, et ça a vraiment bougé pour vous?
Oui, et alors on arrive maintenant à un moment qui est important où il faut passer de cette première phase de redécouverte du plaisir et des organes qu'ils permettent à une phase où on réintègre l'autre. Ou la partenaire. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire en ce moment, mais c'est très important parce que c'est ce que j'ai vécu aussi, moi, dans ma vie. C'est-à-dire, à partir du moment où on rencontre l'homme qui est d'accord pour entamer avec vous une exploration commune et qui chemine de façon égalitaire sur cette voie-là du plaisir et puis de ses multiples possibilités, c'est un moment important dans la vie. Et donc, je trouve qu'en ce moment, le moment est venu de réintroduire, et notamment cette question de qu'est-ce que c'est qu'une relation hétérosexuelle épanouissante.
Vous émettez l'hypothèse, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passerait-il si tout à coup toutes les femmes arrêtaient de simuler, parce que les chiffres sur la simulation sont assez impressionnants, c'est 30% d'après l'IFOP, très souvent 60% régulièrement, et vous pensez que c'est beaucoup plus, donc imaginons ce qui se passerait. Bref, malheureusement c'est un tiroir qu'on pourra pas ouvrir, je me permets en revanche de vous citer Camille Froide-Vaumétry. Vous écrivez: c'est lorsque j'ai compris, dans la joie d'une rencontre qui n'allait jamais se refermer, qu'il ne s'agissait pas tant d'attendre de l'autre qu'il procure d'un coup de queue magique l'orgasme espéré, que de chercher à l'atteindre ensemble sans se focaliser sur le script sexuel imposé, que la jouissance à deux est devenue possible. Vous avez 20 ans et puis bientôt 30, Camille Froide-Vaumétry, vous aimez, mais vraiment cette fois. Et toujours vous dansez là-dessus. Les Rita Mitsuko, Stupid Anyway. Souko, ça vous catapulte où, Camille Froide-Vaumetry?
Dans les années 80, dans les années de fêtes, de danse, dans des années aussi un peu d'insouciance. Alors, il y avait le sida venait d'arriver dans nos vies. C'est important d'en parler, là on est le lendemain ou le surlendemain de cette journée internationale de lutte contre le sida, et c'est important de rappeler que l'épidémie n'a pas disparu d'un coup, recouverte par les autres, mais moi je me souviens parce que c'était vraiment il y a quelque chose qui venait tout d'un coup recouvrir notre, on entrait dans la vie amoureuse et sexuelle avec cette menace qui planait, et c'était, mais en même temps dans une forme d'insouciance, parce que d'abord par méconnaissance au début, puis aussi parce que c'était des années relativement insouciantes, quoi.
Je parle beaucoup ce soir de votre amour immodéré pour la danse. Qu'est-ce que cela vous procure, au fond ?
J'ai mis longtemps à danser, en fait. Et je me suis vraiment épanouie, justement, dans ces années 80. J'habitais à Nevers, et mes amis, c'était des tas de gens qui faisaient de la musique, qui faisaient du théâtre. Il y avait une espèce de grande farandole de joie. On faisait des fêtes de la musique à tout casser, avec des groupes qui se composaient pour l'occasion. On était 20, 25 sur scène à la Maison de la Culture, à faire des espèces de bœufs géants, à danser. Enfin, il y avait cette espèce de... J'ai vécu cette espèce de libération de mon corps par la danse, quelque chose qui devenait possible et que j'ai creusé par la suite quand j'ai pu, en m'éloignant de la France où c'était compliqué pour moi, faire de la danse contemporaine.
Compliqué pour vous de danser en France ?
Bah, de suivre des cours de danse, je voulais faire de la danse contemporaine, mais j'avais jamais fait de danse classique, puis j'avais toujours cette espèce d'auto-empêchement par rapport à ce que je pouvais faire avec mon corps, et puis c'était beaucoup plus facile, loin de chez moi, avec des inconnus, et je sais pas pourquoi, mais c'est là-bas que ça s'est passé.
Et comme tout se rejoint, vous dansez, vous pensez la révolution féministe en cours, révolution par et pour le corps enceint, le corps en deuil, le corps maternel, le corps qui dit non furieusement non, pour mieux dire oui, joyeusement oui. On en parle avec vous, Camille Froide-Vaumetry, avec ce corps à soi que vous publiez aux éditions du Seuil, et puis avec, à la technique ce soir, Charles Westrelin, la réalisation Marie-Annick Rimbaud, attachée de production Ophélie Vivier. Vous êtes sur France Inter, bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, unique en son genre.
Alors vous entamez vos études de sciences politiques, dans le viseur vous avez l'agrégation, vous bossez dur, vous aimez fort et vous tombez enceinte, tout à fait par choix, tout à fait librement. Pour autant, que se serait-il passé, Camille Froide-Vaumetry, si vous n'aviez pas voulu d'enfant ? Est-ce qu'on est réellement libéré de cette injonction à la maternité ?
Je ne crois pas qu'on le soit. En tout cas, c'est ce que disent les jeunes filles qui ne veulent pas d'enfants. Je pose rituellement la question à mes étudiantes de savoir quelles sont celles parmi elles qui envisagent sereinement un avenir sans enfants. Elles sont de plus en plus nombreuses année après année.
Ouais.
Mais je sais aussi que c'est de plus en plus difficile. Enfin, c'est toujours aussi difficile, plus exactement, parce que si nous avons la maîtrise de nos corps procréateurs grâce aux droits procréatifs conquis dans les années 70, les injonctions sociales à l'enfantement et à la maternité pèsent toujours très lourd. C'est-à-dire qu'on est, en fait, toujours dans cette représentation des femmes comme devant remplir l'heure de fonction, une fois encore, sexuelle et maternelle. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais pas voulu d'enfant. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie sans enfant. C'est difficile vraiment de faire une histoire à rebours comme ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible de vivre heureuse sans enfant.
Alors, c'est dans le refus de cette maternité ou dans ces aléas qu'on se rend compte effectivement de la pression exercée sur les mères, comme vous le dites dans votre livre. Et pour vous, ça a été le cas aussi. Vous l'avez vécu 12 semaines après le début de votre première grossesse. Vous faites une fausse couche. Vous allez malgré tout passer la grecque de sciences politiques, et quand je lis ce que j'ai écrit, là j'ai les yeux écarquillés comme ça, comme je les avais écarquillés au moment où je vous lisais, parce que vous allez passer la grecque de sciences politiques, l'oral juste après un curetage, vous étiez admissible, mais à l'oral vous échouez. Qu'est-ce que vous dites au jury à ce moment-là ?
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce que ce ne sont que des oraux, mais enfin, peu importe le détail des épreuves. En fait, j'apprends que la grossesse est arrêtée lors de l'échographie du premier trimestre, donc c'est vraiment, et c'est ma première grossesse, donc c'est un ébranlement inouï, pour moi, mais aussi pour Laurent, parce que c'est évidemment, on doit faire le deuil, je ne sais pas si c'est le deuil d'un enfant, mais en tout cas le deuil d'un projet d'enfant et le deuil d'une grossesse. Le lendemain, j'ai une épreuve, donc c'est une épreuve écrite, c'est une épreuve en 8 heures, on planche sur un sujet pendant 8 heures, qu'on présente à l'oral à la fin de la journée, donc physiquement c'est vraiment un sacré truc. Et puis le lendemain de l'épreuve, je vais à l'hôpital pour le curetage. J'échoue à la fin de ce concours et il y a une espèce de rituel d'un autre âge où on est devant le président du jury et quelques autres membres du jury pour faire une sorte de débrief des raisons de l'échec. Et cet idiot insiste sur cette épreuve que j'ai ratée Et je dis c'est idiot parce que c'était aussi, enfin, en même temps, un peu une petite vengeance pour moi. Mm-hmm. Et donc, je lui dis que voilà, je venais d'apprendre que ma grossesse s'était arrêtée et j'ai vu la stupéfaction des gens en face de moi qui ne savaient plus rien dire. Et je crois que c'est ça le propre, encore aujourd'hui, de ces expériences vécues du corps féminin et de celle-ci spécifiquement qu'est la fausse couche. Socialement, c'est un non-dit, c'est un tabou.
Vous dites c'est un deuil sans rituel ni reconnaissance, en citant Judith Akin. C'est ça, c'est qu'il n'y a ni reconnaissance, ni empathie, ni ça n'existe pas.
Oui, c'est comme si finalement, vous avez échoué à faire ce qu'on attendait de vous, un enfant. Il faut recommencer. On passe à autre chose, on avance et on considère pas que ce soi-disant échec, c'est ce qu'induit un peu ce mot de fausse couche, s'il y aurait quelque chose de, je sais pas, de pas vrai, de faux. Enfin bon, c'est quelque chose de très violent, de très douloureux. Fort heureusement, on en parle désormais, notamment avec ce livre de Judith Akin que vous évoquiez, comme on parle aujourd'hui aussi du postpartum. Oui. Enfin, comment on se ressaisit progressivement de tous ces sujets incarnés qui sont si importants dans la vie des femmes, qui produisent des déflagrations, des événements qui vous transforment à tout jamais, mais qu'on nous demande de taire. Et c'est ça qu'on a décidé de ne plus supporter.
Alors, votre mari et vous inventez votre propre rituel, l'un contre l'autre devant la cheminée. Je vous cite, nous avons regardé les clichés de l'échographie fatale disparaître dans les flammes, puis nous avons laissé une bougie brûler quelque temps pour témoigner de cette disparition. L'entourage encourage alors à passer à autre chose, à penser à la prochaine fois qui sera la bonne. Et de fait, en 2002, vous accouchez de votre premier enfant, votre fils Adam. Vous venez d'obtenir votre premier poste à l'université, par ailleurs, et le 21 avril, comme des millions de Français, vous êtes devant la télé.
L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie Libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Et puis les manifestations continuent. 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes de France. Comment expliquer cette percée de Jean-Marie Le Pen? Trois questions à Pascal Perrineau, professeur en sciences politiques. Il nous rejoindra tout à l'heure.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce jour-là, Camille Fradeau-Mettrie?
Je crois que c'est le jour qui marque la fin du temps de l'insouciance.
Ouais.
Peut-être dans ma vie, mais au-delà de ma vie, dans notre société aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment couperet qui coupe le temps en deux. On s'en rend compte d'autant plus aujourd'hui avec le recul, c'est-à-dire avec malheureusement le constat de ce qui s'ouvrait alors n'allait jamais se refermer, c'est-à-dire la possibilité d'une expression politique des idées d'extrême droite. Comme bien des gens, je suis en colère, je la manifeste en descendant dans la rue, mais c'est quelque chose qui marque quelque chose aussi dans mon parcours professionnel, parce que je suis professeure de sciences politiques, donc mon boulot c'est d'expliquer, d'essayer de comprendre notamment les mécaniques électorales, d'essayer de donner du sens à tout ça. Et là, on a l'impression tout d'un coup qu'on va pas pouvoir mettre des mots et du sens sur ce qui arrive.
Alors, vous avez une conscience politique depuis toujours. En fait, vous avez manifesté avec vos parents au moment de l'élection de François Mitterrand. Vous avez escaladé les grilles du lycée au moment des manifs contre le projet de réforme de Vaquet. Ça, c'est en 86. Est-ce que vous avez déjà, là, en 2002, une conscience féministe? Est-ce que vous dites féministe à ce moment-là ou est-ce que ça vient plus tard?
Alors, je ne le sais pas encore, mais c'est là que ça commence, puisque, comme je l'ai raconté dans le livre, c'est le fait de vivre simultanément la naissance de mon premier enfant et d'entrer pour la première fois dans mon poste d'enseignante de sciences politiques qui va produire en moi une forme de d'ébranlement existentiel qui me fait prendre conscience de ce que vivent les femmes désormais dans les sociétés occidentales émancipées, à savoir, elles sont devenues des sujets à peu près comme les autres dans la sphère sociale et professionnelle. Elles ont des ambitions, elles ont des métiers et elles se donnent à fond dans tous ces projets et puis elles continuent. Et ça, je commence par l'éprouver avant de le penser. Elle continue d'être requise dans la sphère intime, dans la sphère familiale, puisque c'est sur elle, encore et toujours, que l'on compte pour s'occuper de l'éducation des enfants, pour les tâches domestiques, etc. Alors moi, personnellement, je l'ai pas vécu de façon aussi pénible, parce que j'avais la chance de vivre avec un homme qui était très présent et que l'éducation et que les tâches domestiques, dès le début, ont été pensées de façon égalitaire, même s'il a fallu parfois, à échéance régulière d'ailleurs, essayer de remettre un petit peu les compteurs au bon endroit.
Ouais.
Mais c'est en fait 2002, c'est la naissance de mon fils, c'est mon entrée dans la profession d'enseignante-chercheur, c'est le Pen au second tour, et c'est le moment où je prends conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut penser peut-être, que j'ai envie de penser désormais en tout cas.
4 ans après Adam, voici Rose, votre fille, votre cadette. Avec le recul, vous avez le sentiment de les avoir élevés pareil, différemment? Comment est-ce que vous vivez, par exemple, leur adolescence aujourd'hui?
Alors, j'ai longtemps cru que, effectivement, on avait fait les choses d'une façon égale, mais aussi égalitaire. C'est ça un peu le, comment dire, la force des mécanismes patriarcaux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment intériorisés et engrammés, tant et si bien que j'ai pris conscience, et notamment à la faveur du confinement, que j'avais pas fait les choses finalement de façon tout à fait égalitaire. Et par exemple, j'ai pris conscience que ma fille à 15 ans savait s'occuper du linge, lancer des lessives, les étendre, les ranger, et mon fils pas du tout. Il savait faire plein d'autres choses, la cuisine notamment. Mais cette question du linge, bah, je l'avais genrée, et peut-être parce que c'est aussi parce que je m'en charge moi à la maison, dans la façon dont on se répartit les tâches. Mais ça m'a fait j'ai vraiment un petit choc. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. En fait, les choses se logent à des endroits qu'on n'arrive pas toujours à repérer.
Et puis vous écrivez que vous avez plus peur pour Rose, mais que vous vous en voulez d'avoir peur aussi.
Quand mon fils a commencé de vivre sa vie d'adolescent, de découvrir Paris, d'aller boire des verres avec les copains, je trouvais ça super joyeux, ça me rappelait ma propre adolescence et j'étais très heureuse pour lui. Et puis quand ma fille se lance dans cette même aventure, ce qui est le cas en ce moment, bah, je suis à la fois heureuse pour elle et en même temps pétrifiée. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer pour elle? Et d'ailleurs, je vois bien que les choses sont pas simples, hein, par les petits récits qui reviennent à la maison, de ce qu'elle subit en termes d'agression verbale, de gestes déplacés, de situations délicates, c'est pas simple.
Sauf que, entre votre adolescence à vous et celle de votre fille, il y a MeToo. Alors, on pourrait évidemment en parler des heures et ce serait passionnant, mais comme ça, qu'est-ce qui vous vient si je vous dis qu'est-ce que ça a changé pour son adolescence?
Ah, une conscience très très aiguë de ce qu'elle subit, c'est-à-dire elle le subit encore, comme toutes les filles de sa génération, mais elle a conscience de ce qui se passe. Alors évidemment parce qu'elle est ma fille, mais pas seulement, parce que je vois bien que ses copines, c'est la même chose, elles sont dans une séquence où elles sont, même presque malgré elles, entraînées dans une dynamique de ressaisie de leur propre destinée corporelle. Donc elles subissent, elles savent qu'elles subissent, et elles disent qu'elles ne veulent plus subir. Mmh. Et je me souviens notamment du mouvement du hashtag 14 septembre il y a 2 ans. Donc, que voilà.
Et on m'a eu sur le fait d'avoir le droit de venir habiller comme elle voulait à l'école. Hein,
voilà. Le nombril à l'air. Eh bien, ma fille était avec ses copines à la pointe de la lutte devant les grilles de son collège pour réclamer.
Je suis très étonnée.
Qu'on cesse de les considérer comme des corps sexuels et qu'on accepte qu'elles puissent porter les tenues qu'elles souhaitent.
Alors, en ce qui vous concerne, ce mouvement MeToo déclenche un souvenir vague, un souvenir par flash qui refait surface. Il y a quelque chose. Mais vous voulez pas en savoir plus, pas maintenant, en tout cas. Vous serrez les dents et vous poursuivez l'écriture de ce livre où vous interrogez, entre autres, l'impact de MeToo, impact aussi intime que politique. C'est d'ailleurs la question que vous posez avec Laurent Maitry, votre mari, dans ce film Les Mâles du siècle.
Buvez mon café tranquille au comptoir. Quand deux gars sont entrés dans le café en matant le décolleté de la serveuse. Et un des mecs a sorti. Oh les beaux lolos, on veut du lolo.
T'as rien dit.
Franchement, j'avais honte. C'est ce matin-là que j'ai eu envie de comprendre pourquoi tant d'hommes vivaient comme si le féminisme n'existait pas.
Comme j'y connais un peu quelque chose, je lui ai suggéré de leur demander comment ils avaient vécu les grandes batailles féministes.
En posant les mêmes questions à 5 générations d'hommes, de ceux qui avaient 20 ans en 70 à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, on allait essayer de montrer ce que le féminisme avait changé pour eux, ou pas.
Qu'est-ce que le féminisme a fait aux hommes? Alors, Camille Froid-Beaumaitry.
Bah, pour l'instant, pas grand-chose, mais on va essayer que ça s'arrange. Je suis très convaincue de la nécessité de la place des hommes dans le féminisme. Le film Les Mâles du siècle que Laurent Maitry, donc mon mari, a réalisé, c'est un outil pour faire prendre la mesure de ce que précisément le féminisme n'imprègne pas encore suffisamment les mentalités masculines. En tout cas, dans le film, on voit très bien que c'est vraiment les plus jeunes auxquels on a demandé ce qu'ils pensaient de la plupart des conquêtes féministes qui sont les plus en phase en fait avec cette dynamique. C'est très important parce que je vois pas très bien comment on peut progresser, notamment sur ces sujets qui nous intéressent tant aujourd'hui autour du corps, de l'intimité, de la sexualité, si les hommes n'acceptent pas d'abord de reconnaître leur propre responsabilité dans la perpétuation de ces mécanismes patriarcaux. Et puis s'ils acceptent pas aussi dans un deuxième temps de contribuer à l'émancipation qui est aujourd'hui relancée, et en le faisant, en se saisissant eux-mêmes de ces questions et en produisant des outils pour les hommes, parce que quand on est féministe, c'est fatigant au bout d'un moment de devoir toujours expliquer à nos frères, à nos compagnons, à nos copains.
Je vais leur citer cette phrase que j'adore, qu'on se souvienne que derrière chaque homme conscient ou éveillé se cache une féministe au bout du rouleau.
Voilà, c'est exactement ça. Et bien justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer des outils, mais faits par des hommes, à destination des hommes, pour les accompagner dans ce cheminement. C'est important parce que je crois vraiment qu'une des raisons pour lesquelles la révolution immense initiée dans les années 70 a finalement pas produit autant de libération que ces militantes et ces théoriciennes espéraient, c'est parce que les hommes sont restés dans leur monde à eux, dans leur monde de l'entre-soi masculin, et que les féministes peut-être ne leur ont pas assez ouvert les portes, parce que finalement, le socle du patriarcat, il sera mis à terre si les hommes acceptent de remettre en cause leurs propres privilèges et leurs responsabilités dans cette histoire.
Et d'un mot, votre film Les Mâles du siècle est disponible en VOD sur le site lesmalesdusiècle.com. C'est ça. Voilà. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, alors on en profite.
Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we call to find our way, we even take the shape of something else.
Nathaniel Rateliff and the Night Sweat Survivor, Djoubaka au platine d'Unique en son genre, comme tous les vendredis. Et vous retrouverez bien sûr toutes nos références musicales sur le site de France Inter à la page de l'émission, exactement là où vous pouvez podcaster toutes celles que vous avez ratées. Comme quoi, la vie peut être sympa parfois.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Imaginons un monde où on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, on en ferait ce qu'on veut. Ce monde-là, c'est le nôtre et celui de tous nos invités qui chaque semaine viennent apporter leur contribution à notre labo du genre. Camille Froidevaux-Maîtrise, il y avait un objet qui racontait votre rapport au féminin ou qui a contribué à dessiner la femme que vous êtes, ce serait quoi?
Alors c'est un eyeliner, alors vraiment au sens propre, qui a contribué à dessiner le féminin en moi. Il n'existe plus celui que j'utilisais à dos, c'est-à-dire c'était des petites tablettes qu'on mouillait travailler avec un petit pinceau. J'aimais beaucoup ça. En fait, ça m'a permis de rentrer dans une relation à mon image qui était celle de la construction. Ouais. Qui m'a beaucoup aidée à voir ou à donner à voir une image de moi-même qui n'était pas exactement celle que j'étais, parce qu'elle était beaucoup plus agressive et active que je ne l'étais en réalité, ouais, quand j'avais 15-16 ans. Mais ça m'a accompagnée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors j'en porte plus du tout d'eyeliner aujourd'hui, mais c'est ma fille qui a pris le relais.
C'est vrai?
Ouais, oui. D'ailleurs, c'est son eyeliner à elle que j'ai emporté, puisque celui que j'utilisais quand j'étais jeune fille n'existe plus. Et elle le fait très bien. Et le confinement l'a beaucoup aidée à s'entraîner à faire de magnifiques traits, de belles virgules qui vont jusqu'aux tempes.
Et c'est vrai que, alors, pour le coup, chapeau la maîtrise, parce que moi je suis incapable de faire ça, mais votre livre propose vraiment une réflexion intéressante là-dessus, sur comment on se dépatouille de notre envie de modeler notre corps et de ce qui pourrait passer pour des dictates, des injonctions d'un système patriarcal. Et vous vous dites, mais se foutre la paix, être féministe, c'est aussi se foutre la paix et se faire plaisir si on a envie de se...
Oui, c'est ça. C'est surtout être féministe, c'est surtout prêter aux femmes la réflexivité dont elles sont capables, c'est-à-dire la possibilité d'avoir conscience des injonctions qu'on subit, de se les réapproprier, de les rejeter, de s'adapter, et puis de trouver ce que j'appelle une forme de coïncidence à soi. C'est comme ça que je définis ce soin qu'on prend de notre apparence, quelque chose qui a à voir en fait avec celle que l'on est à ce moment-là dans sa vie, à ce moment-là de la journée, avec cette chance inouïe que nous avons d'être dans un rapport fluide et changeant à notre propre corps. Nous avons un corps qui nous rappelle régulièrement qu'il n'est jamais le même. C'est une chance, c'est joyeux, et je trouve que c'est important de considérer qu'à l'échelle d'une existence tout entière, on puisse faire des choix de présentation de soi qui soient toujours différents les uns des autres.
Et à l'échelle d'une existence entière, il y a aussi le cap de la cinquantaine. Est-ce que d'une certaine façon, il pourrait libérer ? Est-ce que vous, il vous a libéré ? Et si oui, de quoi ?
Alors ça a été un moment d'une grande créativité que j'ai pas franchi dans la joie et la bonne humeur. Dis donc, c'était un moment compliqué existentiellement, mais durant lequel je me suis autorisée, par exemple, à revenir à la photographie pour mon livre sur les seins. Ouais. Les portraits de seins de femmes que j'ai rencontrés, c'est moi qui les ai faits. C'était un retour à la photo argentique que j'adorais pratiquer quand j'étais jeune. Et puis c'est un moment aussi où je suis j'écris beaucoup, mais c'est aussi quelque chose que je ressens dans tout mon corps comme une sorte d'énergie créatrice très forte. Je trouve que ça peut être un moment très joyeux, mais en revanche, c'est pas la fin, c'est de la création, mais c'est aussi de la création féminine, c'est-à-dire ça peut et ça doit aussi être la continuation de sa vie de femme, de sa vie d'amoureuse, ouais, de sa vie d'amante. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est un peut-être le point problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que les quinquagénaires, c'est pas seulement qu'elles sont plus considérées comme étant désirables physiquement, mais c'est qu'on leur dénie qu'elles puissent continuer d'être des sujets de désir, qu'elles, ouais, puissent continuer de faire l'amour, ouais, les quinquagénaires, mais aussi les sexagénaires, et voilà, jusqu'au bout de la vie. Et c'est important de rappeler que le plaisir et la sexualité, c'est pas réservé à la période de fécondité.
C'est ça. Camille Froide-Vaumétry, merci infiniment d'être venue nous voir, d'avoir dessiné avec nous les ressorts de MeToo et les contours de ce corps à soi. Un corps à soi, c'est le titre de votre dernier essai, édité au Seuil. Je signale également la parution en poche du Corps des femmes, la bataille de l'intime. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes, à tous, un très bon week-end et je vous embrasse.